Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Au sommaire, un vibrant plaidoyer du pape en faveur de l'emploi alors que la crise touche plusieurs pays européens. Devant plus de 7000 ouvriers italiens, il a repris avec vigueur les enseignements de la doctrine sociale de l'Église. Les municipales en France, les européennes au mois de mai, les rendez-vous électoraux ne laissent pas les catholiques indifférents. Ce jeudi, les évêques européens ont tiré la sonnette d'alarme. La grave crise économique et sociale est en train de nourrir un nationalisme et un populisme grandissant dans de nombreux États de l'Union européenne. Dans cette émission, nous verrons également que la Bibliothèque apostolique Vaticane va procéder à l'archivage numérique en haute définition de ses 82 000 manuscrits, soit quelque 40 millions de pages, grâce à des technologies innovantes. Un accord avec un fournisseur mondial de solutions informatiques a été présenté à la presse ce jeudi. Le Saint-Père a reçu ce jeudi le personnel des aciéries de Terni, une usine sidérurgique en difficulté, fondée il y a 130 ans en Italie et récemment rachetée par un groupe allemand qui a entrepris de la restructurer. Encore un bain de foule et d'enthousiasme dans la salle Pulsis noire du monde. Le pape François a salué une par une les personnes qui se pressaient contre les balustrades, serrant des mains et caressant des enfants. Il a même posé sur sa tête un casque jaune que lui tendait un ouvrier métallurgiste. Sous les applaudissements, le souverain pontife a invité les travailleurs à ne pas se laisser piéger par le tourbillon du pessimisme et les responsables politiques, sociaux et économiques à changer de cap. Le compte-rendu de Marie Duhamel.
La dignité de l'homme est collée au travail.
Ce fut un vibrant plaidoyer pour la dignité du travail. La valeur première du travail, c'est le bien de la personne et non l'idole qui s'appelle l'argent. Au regard des évolutions actuelles, François a jugé opportun de le réaffirmer. Pour lui, le gravissime problème du chômage qui touche tant de pays en Europe, c'est bien cela. Le système économique d'aujourd'hui n'est plus capable de créer de l'emploi parce qu'il a mis l'argent au centre de tout et non l'homme. Or, si le travail vient à manquer, c'est la dignité de l'homme qui est blessée, comme il le fait souvent. Le pape a évoqué le cas d'un de ses amis, ouvrier sans emploi, qui lui parlant a revendiqué certes le droit de manger, mais surtout de retrouver sa dignité, d'apporter lui-même de quoi manger à sa famille. Son travail, perte de la dignité, marginalisation, découragement total, apathie. Ne vous laissez pas abattre, ne cessez jamais d'espérer un futur meilleur. Le pape les a encouragés. Votre foi peut déplacer des montagnes. Pour une nouvelle approche de l'économie, le pape propose aussi deux instruments, la créativité, puis surtout la solidarité entre toutes les composantes de la société, que certaines renoncent à quelque chose pour aider les plus nécessiteux. La solidarité n'est pas un gros mot, a dit le pape. Pourtant, il est menacé. Certains voudraient le faire disparaître du dictionnaire. François qui a conclu ce matin cette rencontre avec les ouvriers de Terni en appelant tous les participants à la prière avec un Ave Maria pour demander à la Vierge la grâce de travailler ensemble avec créativité, solidarité et foi.
Et toujours ce jeudi matin, l'évêque de Rome a reçu le président du Monténégro, Philippe Vujanović, puis le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer. Les relations entre le Saint-Siège et le Monténégro ont été récemment renforcées par la signature d'un accord fondamental qui favorise la collaboration entre l'Église et l'État en faveur du bien commun. Le Monténégro aspire à intégrer les institutions européennes et euro-atlantiques. Ces dossiers ont été évoqués lors de la visite du président Vujanović au Vatican. Les élections européennes de mai prochain constituent un enjeu central pour les évêques du vieux continent, un rendez-vous essentiel pour la démocratie. Ils le soulignent dans une déclaration rendue publique ce jeudi à Bruxelles, au siège de la Comécé. Les évêques des conférences épiscopales de tous les États membres de l'Union européenne exhortent les citoyens européens à se rendre aux urnes au mois de mai. Selon eux, le résultat de ces élections va peser de façon décisive sur la direction que prendra l'Union européenne dans les prochaines années et aura un impact considérable sur les peuples peuples d'Europe. Et ces résultats devraient refléter les angoisses des personnes face à la grave crise économique et sociale. Une crise qui, selon les évêques, entretient la progression d'un nationalisme et d'un populisme dans de nombreux pays membres. Face à un tel constat, les épiscopats catholiques de l'Union européenne se mobilisent dans le cadre de l'Assemblée plénière de printemps de la Commission des épiscopats de la Communauté européenne. Les évêques de la Cométie ont donc présenté une déclaration avec notamment pour objectif d'alerter sur l'enjeu de ces élections européennes, comme l'explique le père Patrick Dely. Il est le secrétaire général de la Cométie.
Les évêques veulent tout d'abord que les citoyens votent, qu'ils participent dans le process démocratique, mais qu'ils votent aussi selon une conscience formée et que cette conscience soit formée par la doctrine sociale de l'Église.
Et donc justement, les citoyens européens sont préoccupés par la situation sociale et économique. Et comment justement leur donner envie de se mobiliser pour l'Europe ?
Il faut leur convaincre que la solution à long terme des grands problèmes urgents d'aujourd'hui sont dans une Europe plus unie, une Europe peut-être plus intégrée, mais certainement une Europe qui manifeste les deux vertus fondatrices de la subsidiarité, un respect pour les traditions dans les divers pays membres, mais aussi une solidarité à travers les classes sociales et à travers les pays. Et donc, en rappelant ces deux principes, et les questions plus ponctuelles, telles le chômage entre les jeunes, l'effet sur les pauvres, surtout sur les marginaux, de la crise bancaire et économique, et une sensibilité aussi vis-à-vis des migrants qui arrivent sur les frontières de notre communauté européenne, les évêques espèrent contribuer à la création à plus long terme d'une société plus harmonieuse où la justice règne.
Dans cette déclaration, les évêques abordent aussi donc des domaines comme la famille ou encore la liberté religieuse. Et oui. Que peut-on donc attendre de l'Europe dans ces domaines ?
La plupart des grandes questions qui concernent la famille sont les compétences des États membres. Mais évidemment, la structure légale et le cadre économique dans lequel les familles européennes doivent vivre leur vie quotidienne sont très importants et une famille a plus de chances de rester ensemble et avoir un niveau de vie qui permet aux enfants de fleurir et aux conjoints de se réjouir de la vie. Là où il y a une stabilité économique, là où il y a du travail, là où il y a les services sociaux qui marchent. Et c'est tout ce contexte socio-légal dans lequel la famille chrétienne et la famille européenne se situent, qui est très important, et aussi au niveau de la politique communautaire de l'Union européenne.
Est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes quant au choix donc, que pourraient faire les citoyens européens donc, pour ces élections ?
On est très sensible à ça, on est très sensible au nationalisme croissant, on est sensible aussi à ce qu'on appelle le euroscepticisme. On est sensible aux besoins très pratiques de beaucoup de citoyens, surtout les nouveaux pauvres ou les jeunes. On a de l'inquiétude pour l'avenir de notre société, mais on est convaincu tout de même que nous avons les ressources à notre disposition. Nous avons le talent dans la vie politique. Nous avons beaucoup de gens, des citoyens qui sont engagés dans la vie publique, qui sont convaincus des valeurs qui sont chères à l'Église, mais qui sont aussi les valeurs fondamentales du projet européen.
Qu'est-ce que les évêques européens attendent comme décision de l'Union européenne au sujet de l'Ukraine ?
Je crois que les évêques européens veulent une solution qui soit équitable, qui soit paisible, mais qui respecte aussi l'intégrité de la territoire ukrainienne comme est déjà décidé grâce à la loi internationale. Aussi, une chose très importante, nous sommes tout de même une commission des évêques, la prière est une force très importante et on a déjà noté que partout en Europe, il y a beaucoup de prières pour que les Ukrainiens réussissent à trouver ce qu'ils désirent sans intervention de d'autres pays et la poursuite de la paix.
Le père Dely, secrétaire général de la Cométie, interrogé par Audrey Radondi. Les Français, quant à eux, se rendent aux urnes dimanche gauche pour le premier tour des élections municipales. Dans une déclaration publiée il y a quelques mois, le Conseil permanent de la Conférence des évêques souligne l'importance d'une vie locale harmonieuse, surtout dans les périodes marquées par le chômage et la précarité. La commune est souvent le premier garant du lien social avec les services aux personnes âgées, aux personnes fragiles ou en situation de handicap. Les évêques condamnent les discours populistes répandant la suspicion contre toute représentation politique et exhortent les élus à mettre en œuvre au niveau local une vive attention à toutes les formes de pauvreté. Ces municipales interviennent dans un climat politique alourdi par différentes affaires. Dans le cadre de l'électorat catholique, on peut par ailleurs se demander si les débats de société comme le mariage pour tous s'inviteront dans le bulletin de vote. Nous avons posé la question à Gilles Rebèche, délégué épiscopal à la solidarité du diocèse de Toulon.
Moi, il me semble que les élections municipales, c'est les dernières élections qui sont proches du territoire. J'ai du mal à imaginer que ces élections vont être un lieu de débat d'idées. Autant le débat public à l'échelle nationale ou cantonale sont les thèmes pour faire avancer des idées, sont un lieu propice. Pour les municipales, c'est toujours un vote de proximité. C'est une des rares mandatures, la fonction de maire, où on peut évaluer concrètement. Le débat, par exemple, le débat sur la famille, le débat sur la fin de vie, sont des débats qui traversent à peu près toutes les listes. Je crains plutôt que certaines listes qui n'ont pas de compétences dans la gestion des affaires à l'échelle d'une ville, à se présenter trop comme cathos, risquent de se décrédibiliser.
Est-ce que l'Église a un rôle à jouer dans les municipales ?
Bien sûr, l'Église est là pour aider à éclairer les consciences. La première chose, c'est d'aider des chrétiens à s'engager, à prendre responsabilité à l'échelle locale, dans le sens du bien commun. Et c'est vrai que la gouvernance d'une ville est maintenant la participation aux communautés de communes, puisque les municipales sont aujourd'hui beaucoup marquées par la réflexion autour des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Et est un lieu où la doctrine sociale de l'Église peut être mise en œuvre de façon très concrète. L'Église doit encourager tous ceux qui ont des responsabilités et qui prennent le risque de s'exposer dans la chose publique.
Sur des sujets comme la pauvreté, le travail, est-ce que l'Église sensibilise, touche les politiques ?
Bien sûr, c'est parfois les sujets qui fâchent. Mais aujourd'hui, par exemple, dans l'aménagement du territoire, dans l'organisation des communautés de communes, la question de la solidarité est rarement prise en compte. On continue à l'aborder de manière compassionnelle ou très technique. Or, aujourd'hui, on voit bien que quand une communauté de communes se met en place, il faudrait arriver à trouver une intercommunalité pour les centres communaux d'action sociale, une intercommunalité pour la prise en charge de l'hôtellerie sociale, de l'accès aux droits des plus démunis, de la vie dans les cités, dans les banlieues. On se rend bien compte que la question sociale demeure au cœur de l'aménagement du territoire, mais le social est souvent abordé au moment des élections municipales plutôt dans un champ clientéliste.
Comment vous abordez les municipales dans votre diocèse de Toulon ?
Dans le Var et à Toulon, les questions importantes sont autour des mouvements d'extrême droite, là, qui sont très militants. Et il y a toute la question autour justement de la fonction d'hospitalité. Nous sommes des régions où l'hospitalité est pratiquée aisément dès que l'hôte a les moyens, donc c'est ce qu'on appelle le tourisme. Dès que ce sont des personnes en précarité, là on parle d'immigration. Il y a beaucoup de débats autour de cette question de la manière de pratiquer l'hospitalité sur un territoire béni comme le nôtre. Il y a aussi tout le débat sur la pratique de la gouvernance pour ce qui touche autour de la corruption, des systèmes claniques. Donc là, on a besoin d'avoir une transparence et encore une fois, l'Église ne peut qu'encourager à tout ce qui est la lisibilité, la subsidiarité, la répartition des rôles, la façon de gouverner un territoire.
Et comment vous faites face à ces deux sujets ?
Dans le diocèse de Fréjus-Toulon, le fait qu'une pastorale sociale soit bien organisée à travers la diaconie diocésaine. Le diocèse est reconnu comme un partenaire de la société civile, puisqu'il a une expertise et des institutions qui sont implantées sur l'ensemble du territoire. Donc c'est vrai qu'à l'occasion des différents débats pour les municipales, plusieurs d'entre nous sont soit consultés à titre personnel par des candidats aux élections qui viennent demander des clés de discernement de droite et de gauche. Et puis participons aussi à certains débats comme l'aménagement des territoires et l'organisation des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Et moi je suis plutôt impressionné de voir qu'il y a autour de ces municipales encore beaucoup de gens très passionnés par la chose publique, la chose sociale. Reste après les élections, en particulier dans les villages où parfois il y a 4 ou 5 listes, à faire œuvre de réconciliation pour que les gens ne se jettent pas des anathèmes et que le vivre ensemble devienne impossible.
Gilles Rebèche, délégué épiscopal à la solidarité du diocèse de Toulon, interrogé par Antonino Gallofaro. Numériser les manuscrits pour mieux les conserver ou comment la technologie la plus moderne permet aux bibliothèques de préserver des trésors de la culture et de l'histoire, la Bibliothèque du Vatican et l'entreprise japonaise NTT Data ont signé ce jeudi au Vatican un accord pour numériser dans les 4 prochaines années 3000 manuscrits. Cette opération qui mobilisera à terme une 50aine de personnes, personnel de la Bibliothèque Vaticane et employés de NTT Data, s'inscrit dans un processus engagé depuis plusieurs années années par le Vatican pour protéger ses inestimables ressources. Les précisions de Xavier Sartre.
L'opération est presque simple. On prend le manuscrit, on le scanne et le voilà numérisé. Pour cela, 3 puis 5 scanners seront utilisés. Ne reste plus qu'à sauver le manuscrit sous un format particulier appelé FITS sur un nuage numérique. 3000 manuscrits seront ainsi traités par le japonais NTT Data. Monseigneur Jean-Louis Brugues, l'archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine, revient sur les objectifs de ce partenariat.
Il s'agit d'abord de conserver. La numérisation permet de conserver dans de meilleures conditions et en plus grand nombre les documents que nous avons. Le deuxième objectif n'est pas moins important. Il s'agit de mettre à la disposition du plus grand nombre les ouvrages qui se trouvent à la bibliothèque. En ce moment, nous ne parlons que de manuscrits. Les manuscrits sont évidemment plus rares et plus originaux. Nous avons des manuscrits qui n'existent pas ailleurs. Donc, mettre à la disposition du plus grand nombre qui vient sur place consulter, et surtout, et ça c'est une nouveauté, mettre à la disposition du plus grand nombre online. Ce qui veut dire que ces trésors du Vatican seront accessibles à n'importe qui dans le monde entier.
La numérisation des 82 000 manuscrits du Vatican a déjà commencé il y a quelques années. Plusieurs opérateurs sont à la manœuvre, mais la bibliothèque a décidé de donner un coup d'accélérateur et accepter l'offre de NTT Data, une offre qui n'a pas étonné Mgr Brugues.
Il y a au Japon une vraie culture humaniste. Et lorsque nous avons eu les premiers contacts avec ces entreprises, je parle au pluriel, ces entreprises japonaises, elles nous ont dit « il n'y a pas de chrétiens parmi nous, mais la perspective humaniste qui caractérise la bibliothèque du Vatican, la bibliothèque apostolique depuis ses origines, c'est-à-dire à la moitié du XVe siècle, nous intéresse et nous voulons lui rendre ce service. » Ce sont ces entreprises qui ont pris l'initiative.
En tout, NTT Data va investir au cours des 4 prochaines années 18 millions d'euros, coût du personnel inclus. Une bonne opération, soit pour la Bibliothèque Vaticane, qui bénéficie ainsi de l'expertise de l'entreprise japonaise, soit pour l'entreprise elle-même.
L'entreprise qui fait cet investissement le fait au titre d'un mécénat culturel, mais aussi espère bien prouver à d'autres institutions la qualité de ce qu'elle fait, et donc ça lui sert de publicité.
Si la collaboration se passe bien, NTT devrait poursuivre son travail de numérisation. Un travail de longue haleine qui devrait prendre encore plusieurs années. Il y a 40 millions de pages en tout à scanner, ce qui représente 43 pétabytes, soit 43 millions de milliards.
Tandis que les catholiques affluent à Shanghai pour témoigner de leur respect envers l'évêque non-destin de la métropole, Mgr Fan, décédé dimanche à l'âge de 96 ans, le numéro 2 de la Congrégation Vaticane pour l'évangélisation des peuples, Mgr Savio On Tai Fai, lui-même originaire de Hong Kong, a fait paraître un texte par le biais de l'agence de presse Asia News appelant le gouvernement chinois à libérer l'évêque auxiliaire de Shanghai, actuellement résident surveillé, pour lui permettre de célébrer les obsèques de Mgr Fan. Selon l'église d'Asie, la cérémonie aurait lieu samedi matin. Le gouvernement a jusqu'ici interdit le transfert de la dépouille de l'évêque dans la cathédrale, mais des messes sont célébrées en mémoire de Mgr Fan en présence de très nombreux fidèles. Olivier Bonnel.
Mgr Fan a passé la quasi-totalité de ses 60 dernières années de vie en prison ou en résidence surveillée. Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient. Seul chinois en poste à la curie romaine, Mgr On Tan Fai salue en lui un modèle de fidélité à sa vocation, de loyauté à l'égard du pape et d'attachement à la liberté religieuse, fût-ce au prix de nombreuses difficultés, y compris la prison, des épreuves qui, écrit-il, n'ont jamais entamé sa liberté intérieure. Aimer Dieu et aimer le pape n'empêche pas d'aimer son pays, souligne le secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Si Pékin autorisait l'évêque auxiliaire de Shanghai à présider les obsèques de Mgr Fan, il s'agirait d'un signal d'ouverture très positif. Difficile cependant de décrypter l'attitude des autorités chinoises et de prévoir leur réaction. Mercredi, la presse officielle de Pékin a publié l'interview récemment accordée par le pape François au quotidien italien Corriere della Sera. Une interview dans laquelle le Saint-Père affirme que le Vatican est proche de la Chine, que les deux parties sont en contact et, fait sans précédent, que le président chinois Xi Jinping a répondu à son message de félicitations. Si elle figure parmi les nouvelles principales, cette interview est toutefois accompagnée d'une note sévère mettant en garde le Vatican contre toute ingérence. Le vice-président de l'Association catholique patriotique, qui dépend du régime, réaffirme ainsi que le Vatican devrait respecter le personnel diocésain autrement dit les évêques nommés par le régime.
Et puis un cardinal de la curie romaine effectue une visite au Soudan du Sud. Le cardinal Turkson a prié pour la paix et relayé l'appel du pape François contre la globalisation de l'indifférence. Il a rencontré les fidèles mercredi soir dans une paroisse de Juba. Le président du conseil pontifical Justice et Paix restera jusqu'à dimanche dans cette jeune nation africaine en proie à la violence et à la famine. L'objectif de sa visite est de relancer la réconciliation nationale. Elle est un signe de la sollicitude et de la solidarité du Saint-Père et de toute l'Église à l'égard de ce pays qui a obtenu son indépendance en 2011. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.